7. Le sentier sur lequel ils avançaient s'élargit, et l'après-midi, les premiers pavés délabrés commencèrent à apparaître. La route s'élargit encore, et peu avant la tombée de la nuit, ils débouchèrent sur un croisement avec un autre sentier, qui avait dû être une route, il y avait bien long. Un piquet rouillé qui avait sans doute supporté un panneau marquait l'embranchement, mais l'éventuel panneau avait disparu. Le lendemain, ils rencontrèrent leur premier bâtiment de ce côté de Fédic. Une épave à demi effondrée, avec une enseigne à l'envers, accrochée au reste du porche. À l'arrière, ils aperçurent une grange écroulée. Avec l'aide de Roland, Susanna retourna l'enseigne et ils déchiffrèrent le mot « écurie », flanqué en dessous de l'œil rouge qu'ils avaient appris à reconnaître.
« Je pense que la piste qu'on suit était autrefois un parcours de diligence entre Château Discordia et le Casse-Roi russe, » suggéra Roland. « Ce qui s'expliquerait. »
Ils dépassèrent d'autres bâtisses, d'autres intersections. Ils se trouvaient à l'entrée du village ou d'une ville, peut-être même d'une cité qui avait fleuri dans l'ombre du château du roi cramoisi. Mais à la différence de Lud, il n'en restait pas grand-chose. Des brins d'herbe du diable poussaient en touffes molles dans les interstices de certains bâtiments, mais ils étaient la seule trace de vie. Et le froid mordait plus que jamais. La quatrième nuit, après avoir vu les corbeaux, ils essayèrent d'établir leur campement entre les murs d'une bâtisse qui tenait encore à peu près debout, mais ils entendirent tous deux des voix murmurer dans l'ombre. Roland lui expliqua, avec un détachement qui lui fit froid dans le dos, qu'il s'agissait des voix de fantômes qu'on appelait des démons domestiques, puis suggéra de retourner plus tôt dans la rue.
« Je ne pense pas qu'il pourrait grand-chose contre nous, mais il pourrait faire mal au petit bonhomme, »
dit Roland en caressant Othé, qui s'était réfugié sur ses genoux avec un air craintif qui ne lui ressemblait vraiment pas. Susanna ne se fit pas prier pour battre en retraite. Cette maison dans laquelle ils étaient entrés lui donnait un frisson étrange, bien pire que ceux causés par le froid physique. Ces choses qu'ils avaient entendues chuchoter étaient peut-être vieilles, mais elle pensait pour sa part qu'elles avaient toujours faim. Ils se blottirent donc tous les trois une fois de plus au milieu de l'avenue des Maltaires, à côté du taxi de luxe de Hofat, en attendant que l'aube fasse remonter la température de quelques degrés. Ils tentèrent de faire du feu avec les planches d'une maison effondrée, mais ils ne réussirent qu'à gaspiller deux bonnes poignées de méta. La gélatine goûtait des éclats de bois de la chaise dont ils s'étaient servis comme petit bois d'allumage. Puis, plus rien. Le bois ne voulait tout simplement pas brûler.
Pourquoi ?
Lança Susanna en voyant s'évanouir les dernières petites volutes de fumée.
Pourquoi ?
Ça te surprend, Susanna de New York ?
Non, je veux simplement savoir pourquoi. Est-ce que le bois est trop vieux, pétrifié, ou quelque chose dans le genre ?
Il ne veut pas brûler parce qu'il nous hait,
dit Roland, comme si c'était une évidence, même pour elle.
C'est son territoire, ça l'est toujours, bien qu'il ait changé de décor. Tout ici nous hait. Mais écoute, Susanna, maintenant qu'on se trouve sur une vraie route et que le revêtement est correct, que dirais-tu de nous remettre à marcher de nuit? Tu veux bien essayer?
Bien sûr. Tout plutôt que de rester allongé là comme un chaton qui vient de faire un plongeon dans un tonneau d'eau.
C'est donc ce qu'ils firent, dès cette nuit-là, puis celle d'après et les deux suivantes. Elle n'arrêtait pas de se dire
« Je vais être malade, je ne peux pas continuer comme ça sans attraper quelque chose. »
Pourtant, elle n'attrapa rien. Aucun d'eux n'attrapa quoi que ce soit. Il y avait juste ce bouton à gauche de sa lèvre inférieure qui parfois éclatait et laissait suinter un petit filet de sang avant de se refermer et de faire une croûte. Leur seul mal, c'était ce froid constant qui les rongeait de plus en plus profondément, visant le cœur. La lune se remit à grossir de nouveau. Et une nuit, elle calcula qu'il faisait route vers le sud-est depuis presque un mois. Lentement, un village déserté remplaça le fantastique jardin de flèches rocheuses, mais Susanna avait pris à cœur ce que Roland lui avait dit. Ils étaient toujours en pleine Malterre, et s'il leur arrivait maintenant de rencontrer parfois un panneau proclamant qu'ils suivaient la voie du roi, avec l'œil évidemment, toujours avec l'œil rouge, elle comprenait qu'en réalité ils étaient toujours sur l'avenue des Malterres. C'était là un village surnaturel, et elle ne voulait même pas essayer d'imaginer quel genre d'autochtones monstrueux avaient pu l'habiter autrefois. Les rues latérales étaient pavées. Les maisonnettes, serrées, étaient surmontées de toits pentus. Les portes étaient anormalement hautes et étroites, comme taillées pour des silhouettes comme celles qu'on voyait dans les miroirs déformants à la foire. Il y avait des maisons Lovecraft, des maisons Clark Ashton Smith, des maisons William Hope Hodgson, des terres frontalières, toutes entassées à la lueur d'une lune à la Libron Coy, toutes ces maisons penchées sur les collines qui ondulaient progressivement de part et d'autre du chemin. De loin en loin, ils en apercevaient une effondrée, et ces ruines avaient un air malsain, un air organique, comme si elles étaient constituées de chair arrachée et pourrissante au lieu de vieilles planches et de verre. Et elle se surprenait à distinguer des têtes de cadavres en train de les observer, tapis dans l'ombre, des visages qui semblaient tournoyer dans les décombres, avant de poursuivre leur chemin, avec leurs yeux terribles de zombies. Il lui faisait penser au gardien du manoir de Dutch Hill, et ce souvenir lui donnait la chair de poule. Au cours de leur quatrième nuit, le long de la voie du roi, ils arrivèrent à un gros carrefour. La route principale décrivait un tournant abrupt, pointant plus vers le sud que vers l'est, se dissociant par là de la trajectoire du rayon. Devant eux, à moins d'une nuit de marche, ou en selle sur le taxi de lune de Hoffat, se dressait une colline gigantesque surplombée d'un énorme château noir creusé dans la terre. Au clair de lune, Susanna lui trouva un vague air oriental. Les tours étaient bombées au sommet, comme pour ressembler à des minarets. De formidables passages suspendus reliaient les deux tours, se croisant au-dessus de la cour située devant le château proprement dit. Certaines de ces passerelles s'étaient effondrées, mais la plupart tenaient encore. Elle entendait également un grondement sourd. Pas celui d'une machine quelconque. Elle interrogea Roland.
De l'eau.
Quelle eau? Tu as une idée?
Il secoua la tête.
Mais je ne boirai rien qui coule si près du château, même si je devais mourir de soif au bord du ruisseau.
Cet endroit est mauvais,
marmonna-t-elle, ne parlant pas uniquement du château, mais aussi du village sans nom avec ses maisons penchées, hantées, qui avaient poussé autour.
Hé, Roland, il n'est pas vide.
Susanna, si tu sens des esprits frapper à la porte de ton cerveau pour essayer d'y pénétrer, frapper ou ronger, alors chasse-les.
Est-ce que ça marchera?
Je n'en suis pas certain, admit-il, mais j'ai entendu dire que ces créatures-là ne peuvent entrer sans y être invitées et que par conséquent, elles déploient des ruses et des supplications infernales pour y parvenir.
Elle avait lu Dracula. Et elle avait aussi entendu l'histoire du père Callahan à Jérusalem Slot. Aussi ne comprenait-elle que trop bien ce que Roland voulait dire. Il la prit doucement par les épaules et la fit pivoter afin qu'elle tourne le dos au château, dont elle avait finalement décidé qu'il n'était peut-être pas tant noir que terni par les ans. Il lui faudrait attendre la lumière du jour pour le savoir. Pour le moment, leur chemin n'était éclairé que par un croissant de lune ourlé de nuages. Plusieurs autres routes partaient en étoiles du carrefour où ils s'étaient arrêtés, pour la plupart tordues comme des doigts cassés. Celle que lui indiqua Roland était droite, cependant, et Susanna se rendit compte que c'était la première route droite qu'elle voyait depuis qu'ils avaient aperçu les premiers signes du village déserté. Elle était recouverte d'un revêtement plus lisse que les pavés et pointée au sud-est, le long du sentier du rayon. Au-dessus, les nuages à doublure argentée le suivaient comme une procession de navires.
« Aperçois-tu une tache noirâtre à l'horizon, ma chère ? »
murmura-t-il.
« Oui, une tache sombre avec une bande blanchâtre devant. Qu'est-ce que c'est ? Tu le sais ?»«
J'en ai une idée, mais je n'en suis pas certain, » dit le pistolero. « Reposons-nous un peu ici. L'aube ne tardera plus et alors nous y verrons tous les deux plus clair. De plus, je ne veux pas approcher de ce château-là de nuit. »
Si le roi cramoisi est parti et si le sentier du rayon va dans sa direction,
dit-elle en tendant le bras,
pourquoi est-ce qu'on doit y aller tout court dans cette foutue baraque?
Pour vérifier qu'il en est bien parti pour commencer, et peut-être qu'on réussira à piéger celui qui nous suit. J'en doute, car il est rusé, mais il y a une chance. Il est jeune aussi, et les jeunes sont parfois insouciants.
Tu serais prêt à le tuer ?
Le sourire qui se dessina sur les lèvres de Roland était glacial, sous l'éclat blafard de la lune, sans pitié.
Sans une seconde d'hésitation, asséna-t-il.
8. Au matin, Susanna se réveilla d'une somnolence inconfortable au milieu des vivres entassés à l'arrière du pousse-pousse. Et vit Roland déjà debout, planté au milieu du carrefour, regardant dans la direction que suivait le sentier du rayon. Elle descendit avec beaucoup de précaution, car elle se sentait raidie et ne voulait pas tomber. Elle imagina ses os, glacés et endoloris sous sa chair, prêts à se briser comme du verre.
« Qu'est-ce que tu vois ? » lui demanda Roland. « Maintenant qu'il fait jour, que vois-tu dans cette direction ?»
La bande blanchâtre était de la neige, ce qui ne la surprit pas outre mesure, étant donné qu'ils étaient en altitude. Ce qui, en revanche, la surprit plus, et lui réchauffa le cœur à un point qu'elle n'aurait pas imaginé possible, ce furent les arbres au-delà de la neige. Des pins verts. De la vie.
Oh, Roland, comme ils sont jolis! « Même les pieds dans la neige, ils ont l'air ravissants, n'est-ce pas ?»«
Oui. »
Il la souleva en hauteur et la plaça dans la direction de laquelle ils étaient venus. Au-delà de l'amas lugubre de masures mortes, elle voyait encore une partie des mal-terres qu'ils avaient traversées pour arriver jusqu'ici. Toutes ces arêtes rocheuses entassées les unes derrière les autres, interrompues seulement de loin en loin par une butte ou une mésa.
« Imagine un peu, » dit Roland. « Là-bas, dans la direction où porte ton regard, c'est Fédic. Au-delà de Fédic, Tonnefoudre. Au-delà de Tonnefoudre, les Calas et la forêt qui délimite les terres frontalières entre l'entre-deux-mondes et le monde ultime. L'Eude est encore plus loin, et ensuite c'est River Crossing, puis la mer Occidentale et le désert Moen. Et quelque part derrière, perdu à des lieux et perdu dans le temps aussi, il y a ce qu'il reste du monde de l'intérieur. Les baronnies, Gilead. Des lieux où aujourd'hui encore il existe des gens pour se rappeler l'amour et la lumière.
Oui,
dit-elle sans comprendre.
C'est par là que le roi cramoisi s'est tourné pour faire jaillir son courroux. Il avait l'intention d'aller dans la direction inverse, tu dois l'intuiter, vers la tour sombre, et même dans sa grande démence, il n'était pas assez fou pour tuer tout ce qu'il rencontrait, toute la terre qu'il traversait, lui et sa bande de fidèles.
Il l'attira à lui et lui déposa sur le front un baiser d'une telle douceur qu'elle en eut les larmes aux yeux.
Tous les trois, nous allons visiter son château et piéger Mordred à l'intérieur, si la chance est de notre côté et pas du sien. Puis nous reprendrons la route vers des terres vivantes. Il y aura du bois pour faire du feu, du gibier pour nos repas et des peaux pour se couvrir. Peux-tu poursuivre encore un peu, mon ami? Le peux-tu?
Oui,
dit-elle simplement.
Merci, Roland.
Elle le prit dans ses bras et, ce faisant, elle regarda en direction du château rouge. Dans la lumière naissante, elle voyait que la pierre dont il était fait, bien qu'obscurcie par les ans, avait dû avoir autrefois la couleur du sang versé. Ce qui invoqua un souvenir, celui de la palabre avec Mia sur l'allure du château Discordia, un souvenir de lumière écarlate, pulsant régulièrement au loin. De là où il se trouvait en ce moment, ou à peu près d'ailleurs.
Viens à moi maintenant, si tu dois venir,
lui avait dit Mia,
car le roi peut fasciner, même de loin.
Elle parlait de cette lumière rouge, mais...
Elle a disparu,
s'exclama-t-elle.
La lumière rouge qui s'élevait du château, la forge du roi, comme elle l'appelait, elle a disparu. On ne l'a pas vue une seule fois de tout ce temps.
Non, dit-il avec un sourire plus chaleureux. J'imagine qu'elle s'est arrêtée au moment où nous avons mis fin au labeur des briseurs. La forge du roi s'est éteinte, Susanna. Pour toujours, si les dieux se montrent cléments, nous aurons au moins accompli cela, même si nous l'avons payé très cher. Dans l'après-midi, ils arrivèrent au casse-roi russe, qui ne se révéla pas tout à fait désert, finalement.